Bonjour et bienvenue dans le magazine Santé. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès à la santé dans un contexte humanitaire difficile. Fanny Christelle Balekossi et Reine Fabienne Loutiga pour vous animer cette émission. La technique est assurée par Herman Namouna.
Radio Ndekiluka, vous écoutez votre magazine Santé.
Le secteur de santé est l'un des secteurs qui a payé de plus lourds tributs pendant la crise qui a secoué le pays. Les infrastructures saccagées, des médicaments emportés, certains personnels déplacés. Les patients n'ont pas l'accès direct aux soins de santé de qualité. Aujourd'hui, des actions se font pour relever ce secteur, mais les défis restent immenses en dépit des engagements des partenaires. Pour en parler, je reçois sur le plateau dans cette émission Dr Pierre Somsé, ministre centrafricain de la Santé publique et de la Population. Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Alain Bercé, conseiller fédéral de la Suisse, en visite en République centrafricaine, bonjour.
Bonjour.
Valérie Petitpierre, chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Centrafrique, bonjour.
Bonjour.
Eude Vondia, clinicien, responsable civil à l'ONG Ubuni, bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous pour commencer, Alain Bercé, une première visite officielle d'un membre du gouvernement suisse en République centrafricaine. Que peuvent attendre les Centrafricains de cette visite ?
Bon, d'abord, c'est pour moi un très grand plaisir et pour la Suisse aussi un honneur de pouvoir faire une première visite ici au niveau politique en République centrafricaine. Et ça fait suite à plusieurs rencontres avec le président Touadéra l'année dernière, la volonté d'approfondir les échanges et les discussions. Et je crois que ce qu'on peut en attendre de part et d'autre, eh ben, c'est dans le fond d'approfondir ces relations et précisément de voir ce que l'on peut développer ensemble comme projet. En fait, on a déjà commencé avec le ministre de la Santé l'année dernière. On a lancé dans le cadre de l'Organisation mondiale de la Santé un appel à l'action pour l'accès à la santé dans les zones de conflit, dans les contextes fragiles. Et on poursuit le travail, voilà. Ça prendra du temps, c'est pas facile. Ça se fait aussi, bien sûr, avec les organisations non gouvernementales, les organisations gouvernementales. Mais enfin, on a reconnu qu'il s'agit là d'un enjeu majeur de santé publique.
Venons-en à l'un des volets de votre cahier de charge. Comment fonctionne le système de santé en Suisse ?
Bon, c'est un système qui est basé sur l'accès universel à la santé. Donc toute personne dans le pays a un accès à la santé. On a même des personnes qui résident illégalement dans notre pays qui ont malgré tout l'obligation d'avoir une assurance maladie et l'accès aux soins. Parce que c'est pour nous une question de santé publique, en fait. On ne peut pas laisser de côté des personnes qui pourraient aussi transporter des virus ou véhiculer des maladies. Donc on souhaite que toute personne sur les territoires soit couverte. Après, c'est clair qu'on a une situation qui n'est pas du tout comparable à celle de la République centrafricaine. Ce que j'ai vu aujourd'hui en me rendant sur le terrain... eh bien, c'est naturellement que dans des contextes fragiles, des contextes où la sécurité est difficile à maintenir, eh bien que dans le fond, les premières personnes qui souffrent de cela, d'abord, sont les populations locales, et puis ensuite, eh bien, ça rend beaucoup plus difficile le travail des institutions, du gouvernement, pour garantir un accès à la santé.
C'est ce que vous avez constaté à Kagabandoro?
Ce que j'ai constaté ce matin, d'abord, c'est des personnes qui s'engagent sur le terrain de manière extrêmement forte, extrêmement courageuse. J'ai visité l'hôpital, j'ai pu voir aussi la collaboration qui existe entre les autorités, l'hôpital et par exemple le CICR qui est très présent sur place. Et je crois que dans un cadre comme celui de Kagabandoro, qui est un cadre... dans le fond, qui a connu dans le passé des situations difficiles en matière de sécurité, ça reste assez précaire, ben, dans ce cadre-là, ces collaborations sont très importantes et permettent, dans des conditions qui au moins existent, d'avoir un accès à la santé pour les personnes qui en ont besoin. Et je crois que c'est exactement ce que nous souhaitions traiter aussi avec le ministre de la Santé, ce que nous avons fait l'année passée à l'OMS, ce que nous allons poursuivre dans deux semaines aussi. Je me réjouis beaucoup d'ailleurs de poursuivre ça. C'est bien la preuve quand on lance des initiatives sur le plan politique, ce n'est pas juste des mots en l'air. Ce sont des choses qui avancent, qui progressent, et on va poursuivre dans ce cadre-là.
Oui, justement, monsieur le ministre, comment se porte le système sanitaire de la RCA à ce jour ?
Ben de mieux en mieux, mais on est encore très loin du compte. Comme vous le savez, le vrai miroir de cette situation sanitaire est la santé des mères et des enfants. On a le taux de mortalité, le deuxième taux de mortalité maternelle le plus élevé du monde et le troisième taux de mortalité infantile le plus élevé du monde. Les tendances sont bonnes.
Oui, mais Monsieur le Ministre, le financement du secteur de la santé, y compris le système d'approvisionnement en médicaments, reste encore faible en République centrafricaine. Que fait votre département pour contourner cette situation?
Bon, nous bénéficions de l'appui des financements humanitaires qui apportent des médicaments de façon gratuite dans les formations sanitaires. Donc, parallèlement, nous avons entrepris une réforme du secteur pharmaceutique pour aboutir à un système national d'approvisionnement, toujours avec l'appui des partenaires de l'OMS. On vient d'avoir une loi qui va bientôt être adoptée. Et on a une politique, on va avoir un plan directeur pharmaceutique. Mais on doit lutter contre les faux médicaments, comme vous le savez, dans un contexte comme celui-ci, comme un process en conflit et post-conflit, 30 à 70% des médicaments qui circulent sont des faux médicaments. Et donc, on a engagé aussi à ce niveau un front qui fait son chemin.
Valérie Petitpierre, nous savons tous que le CICR est toujours à côté de la population centrafricaine pour protéger, assister les personnes touchées par le conflit ou la violence, leur fournir des secours d'urgence et les aider à trouver des moyens de subsistance. Alors, ce travail d'assistance se poursuit-il?
Oui, bien sûr, il se poursuit. Et d'ailleurs, ici, nous avons une des opérations les plus grandes au monde et une des plus grandes donc en Afrique, avec plus de 500 collaborateurs sur le terrain. On a plusieurs structures, dont celle à Kagabandoro, mais aussi à Bambari, Boar, Ndélé. On est toujours présent parce que même s'il y a un niveau de conflictualité, je dirais, qui a baissé ces dernières semaines, ces derniers mois, on a toujours affaire à un niveau de violence élevé. Les populations continuent à payer le plus lourd tribut de ces violences et on se doit de rester auprès de ces populations pour répondre à leurs besoins en assistance, dont les besoins en matière de santé, c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui à Kagabandoro, mais aussi les besoins en protection qui restent très 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 importants. Je mentionnais justement la violence, on parle aussi de violence sexuelle et à Kagabandoro, on a des activités de soutien non seulement médical mais aussi psychosocial en faveur des victimes de violences sexuelles.
Et c'est la raison qui pousse le CICR à suspendre ses activités à l'hôpital communautaire de Bangui?
Non, alors l'hôpital communautaire de Bangui, on a offert un soutien pendant 5 ans. C'était un projet de 5 ans qui a débuté en décembre 2013. Et comme on le sait, à ce moment-là, il y avait une situation de violence extrême dans la ville de Bangui. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de soutenir l'hôpital communautaire. On a eu 2 équipes chirurgicales qui ont travaillé plusieurs années dans cet hôpital. On a aussi fait beaucoup de travaux. On a réaménagé, réhabilité le bloc opératoire, le service des urgences, d'autres services aussi. Et on a misé aussi sur la formation du personnel médical dans cet hôpital. Et aujourd'hui, on peut se réjouir du fait que l'hôpital a les moyens d'assurer la continuité des services en toute autonomie grâce à ce soutien du CICR, mais aussi grâce aux formations qui ont été offertes. Et je pense que c'est important aussi de mentionner le fait que le CICR a un mandat précis de travailler dans les situations de conflits armés et de violence. Et aujourd'hui, heureusement, les niveaux de violence ont baissé à Bangui, mais on voit que des niveaux de violence assez importants restent sur le terrain. Et on a décidé de renforcer notre soutien à l'hôpital de Kagabandoro, par exemple, pour être plus présent des victimes de violence dans cette préfecture.
Alain Bercé, le système de santé suisse est souvent présenté comme l'un des plus performants au monde. Qu'est-ce qui caractérise donc cette performance?
Bon, vous savez, on a aussi coutume de dire que c'est l'un des plus chers, hein, parce que si on regarde la production intérieure brute, si on regarde la création de richesses dans notre pays, on consacre, avec une production qui est très élevée, 12% du produit intérieur brut aux dépenses de santé. Et ce, avec une production qui est globalement très élevée. Donc c'est très cher et c'est un système qui, est très performant dans tous les domaines de la médecine. Mais encore une fois, ça a été possible de le développer en comptant sur une très longue histoire et puis sur une très grande stabilité institutionnelle du pays. Et en écoutant tout à l'heure les propos du ministre de la Santé de Centrafrique, je me disais, oui, ben... on a en fait des préoccupations qui ne sont pas forcément identiques, mais la lutte contre les faux médicaments, par exemple, c'est aussi un élément qui nous concerne fortement. Et la formation de personnel médical, c'est aussi quelque chose qui nous concerne fortement.
Et comment vous comptez appuyer ?
Eh bien, je me disais, c'est un des éléments, alors on va déjà en parler ce soir, mais on va surtout en parler demain dans notre rencontre officielle, monsieur le ministre. Mais on
donc
a effectivement.
Je suis en avance, quoi.
Dans le domaine, oui, non, ce sera un scoop pour la radio, c'est ça. Non, écoutez, dans le domaine de la lutte contre les faux médicaments, je crois qu'on devrait là absolument ouvrir une collaboration. Parce que nous avons, nous, de notre côté, une expertise dans ce domaine-là, avec un institut en Suisse qui s'appelle SwissMedic, qui s'occupe de la sécurité et de la, sécurité et de la qualité des médicaments. Et j'aimerais vraiment ici alors adresser une invitation aux autorités centrafricaines pour nous rejoindre dans la deuxième partie de cette année pour un séminaire que nous organisons précisément sur ces questions. Et je crois qu'on doit commencer comme cela, que les gens se connaissent, dans le fond que l'on reconnaisse quels sont les problèmes à traiter, et puis qu'ensuite on puisse les traiter ensemble et voir comment on peut approfondir la collaboration. Et donc c'est une invitation vraiment très formelle que j'aimerais vous lancer là pour cet automne, monsieur le ministre, pour vos équipes, de vous rendre en Suisse pour ce séminaire qui est consacré précisément à cette thématique, puis après de voir comment est-ce qu'on peut concrétiser et approfondir la collaboration. Puis dans un autre domaine qui est la formation du personnel médical, j'ai été très frappé, vous avez mentionné ces statistiques qui concernent la Centrafrique, avec les efforts que vous menez. Et ce qui m'a frappé également, c'est le nombre de médecins qui sont disponibles par million d'habitants sur l'ensemble du territoire. Et là, naturellement, vous avez un enjeu important en termes de formation médicale. Et je sais que nous avons en Suisse des hôpitaux qui seraient prêts également à ouvrir une collaboration pour des étudiants qui sont déjà avancés dans leurs études, parce qu'il y a des possibilités de faire des études également ici à Bangui, et bien de faire ensuite des spécialisations ou d'approfondir un domaine dans le cadre d'un échange, avec la Suisse. Donc là, on est dans des choses très concrètes. Ce n'est pas des théories. Je crois que c'est comme ça qu'on fait progresser la situation sur le terrain, et nous serions très heureux de pouvoir le faire avec la Centrafrique.
Eude Vundia, vous êtes clinicien à l'ONG Ubuni. Je rappelle à nos auditeurs que Ubuni est une ONG qui a apporté beaucoup d'appui aux personnes touchées par ces événements. Mais en République centrafricaine, effectivement, les années de conflit ont marqué physiquement et l'environnement humain, mais aussi les esprits de la population.
Dans notre organisation, les apports que notre organisation a pu mettre auprès de la population, dans 2 ans, nous avons effectué auprès de la population 2598 consultations auprès de la population. Et nous aimerons établir et élaborer notre activité auprès de la population qui se trouve dans des provinces. Nous avons manque de financement logistique. Donc c'est ça qui nous cause des problèmes, que nous sommes limités. Donc auprès de la population, nous avons consulté par les consultations individuelles, par groupe, auprès de la population qui se trouve aux proximités de Bangui.
Mais comment vous avez un pourcentage de personnes que vous avez pu consulter?
Pourcentage des femmes, nous avons consulté 60 femmes et 25 hommes qui sont traumatisés et 15% des enfants qui sont en détresse.
Monsieur le ministre, dans votre propos tout à l'heure, vous avez parlé de la gratuité de soins. Or, dans certains centres de santé, dans certaines formations sanitaires, c'est encore chose non réalisable. Comment vous justifiez cela?
Bon, mais c'est une situation en progression. Quand je parle de la gratuité, c'est celle qui est pratiquée dans des situations d'insécurité. Ce pays a souscrit à une approche donc de financement de la santé qui comporte le financement communautaire. Les populations participent à leur santé. C'était une approche qui marchait très bien jusqu'à la crise. Nous n'entendons pas l'abandonner. Mais comme vous le savez récemment, le gouvernement, le président de la République, a pris un décret qui institue la gratuité ciblée, c'est-à-dire l'accès des femmes enceintes, des femmes en allaitement, des femmes qui sont en travail, des femmes qui ont besoin de césarienne, des femmes violées, à des soins gratuits. Et l'accès des enfants de 0 à 5 ans à des soins gratuits. Ceci répond tout simplement à cette problématique, ce défi majeur que nous avons de réduire de façon accélérée la mortalité maternelle et infantile. Donc la gratuité va être pratiquée au niveau national, mais ciblée sur ces deux groupes vulnérables qui aujourd'hui payent le plus le plus tribu à cette situation de crise.
Je reste avec vous, monsieur le ministre. La Suisse et la République centrafricaine ont collaboré à la mise en œuvre de l'initiative Appel à l'action, couverture sanitaire universelle dans les situations d'urgence. Quel bilan faites-vous de cette collaboration? On peut déjà évaluer, oui ou non?
Oui, on peut évaluer. Donc, comme vous voulez le dire, la Suisse joue un rôle à travers notamment le ministre quand il était président de la Confédération, et il continue de le faire. Il a été en quelque sorte le promoteur d'une mobilisation internationale sur la question de la santé à travers deux grands forums organisés à Genève et en marge de l'Assemblée des Nations Unies, qui ont débouché sur un appel qui, pour nous, nous ont permis aujourd'hui, comme vous le savez, de lancer une campagne pour accélérer l'avancée vers la couverture universelle. Et cette campagne, comme vous le savez, est concrétisée par 10 domaines présidentiels d'impulsion qui sont des piliers, des points d'ancrage de l'accélération vers l'accès universel. Cette liste est longue, comme vous le savez, mais ces 10 domaines comportent les médicaments, comportent l'éducation des filles, puisque l'éducation des filles est une condition sine qua non pour la réalisation de la réduction de la mortalité. On a 6% d'achèvement de l'école secondaire chez les filles aujourd'hui. L'eau et l'assainissement et la nutrition, la lutte contre les épidémies, les médicaments et la sécurité routière, puisque vous savez, les accidents de circulation ont augmenté en ville. Donc, pour ne citer que cela. Aujourd'hui, on met l'accent pour cette couverture universelle sur l'amélioration de la qualité des services, mais aussi sur la responsabilisation des communautés, comme on l'a lancé à Pisa il y a quelques jours. Et c'est une mobilisation qui va monter en puissance dès maintenant jusqu'à la fin de l'année.
À ta santé, si tu ne m'entends pas, je te ferai un signe. Et si tu ne vois pas, te guiderai sur la ligne. Si tu ne parles pas, je devinerai tes mots. Si tu ne comprends pas, prendrai le temps qu'il faut. Si tu es maladroit, j'assurerai tes mains. Et si tu n'es
À l'inversé, vous avez écouté, monsieur le ministre, la Suisse peut-elle envisager un partenariat dans ce sens, c'est-à-dire qui sort un peu du cadre humanitaire?
Bon, d'abord, je crois qu'on a effectivement essayé de démarrer des réflexions et des collaborations avec des sujets très, très concrets, très ciblés. La question de la couverture universelle, l'accès à la santé dans les zones où la sécurité est quand même importante, c'est un enjeu pour nous très important parce que, vous savez, on dit toujours la Suisse est un pays neutre. Oui, mais neutre, mais pas indifférent. Nous ne sommes pas indifférents. Nous sommes, avec la Centrafrique, intéressés à ce que la situation progresse, à ce que les échanges entre nos pays progressent, à ce que l'on puisse apprendre les uns et des autres. Ce que j'ai vu aujourd'hui, je peux vous dire, à Kagabandoro, eh bien, naturellement, ça nous fait aussi réfléchir sur notre propre système de santé, parce qu'on a, avec relativement peu de moyens, des services qui sont donnés, avec des gens qui sont très engagés sur le terrain. Et je crois que ces échanges-là doivent se poursuivre. D'ailleurs, c'est aussi un élément, je crois, très important pour nous de pouvoir, dans le fond, trouver ce chemin. C'est aussi la politique extérieure de la Suisse, c'est la politique que mène mon pays en général. C'est une politique qu'on mène aussi à travers le soutien qu'on porte à des grandes organisations, parmi lesquelles, évidemment, le CICR, qui est une organisation internationale de très, très grande envergure, mais... Nous sommes très fiers de le rappeler, qui est né en Suisse, qui a été fondée en Suisse, même si elle est devenue une organisation qui couvre le globe entier, la terre entière. Et on est très fiers de cela, pour tout vous le dire. Et donc, dans ce cadre-là, bien, trouver le chemin pour faire une réponse humanitaire à des problèmes concrets qui existent. Et, vous avez mentionné la situation avec les violences, la crise qui a eu lieu, la situation qui aujourd'hui s'améliore. On est très heureux de voir qu'un accord de paix a été signé. On est aussi intéressé de voir comment il va être mis en œuvre. C'est l'occasion de l'échange ce matin avec le préfet d'ailleurs à Kagabandoro. Et dans ce cadre-là, il faut réussir à passer d'une logique, dans le fond, de réponse à une crise humanitaire à une logique à plus long, moyen et plus long terme de développement. Développement donc de l'accès aux soins, développement des possibilités, par exemple, si on pense à la santé, d'avoir un accès qui se développe à différents types de soins. Et c'est aussi un des enjeux à l'hôpital ce matin à Kagabandoro. C'est aussi de cela qu'on m'a parlé.
Oui, mais pourquoi votre visite est orientée spécifiquement sur la santé?
Ah, ben parce que... Bon, d'abord, c'est aussi un thème de responsabilité que j'ai dans mon pays. Oui. Mais vous savez... Pour les populations, pour les personnes concernées, les choses les plus importantes, c'est d'avoir accès à de la nourriture, c'est d'avoir accès à de l'eau, c'est l'accès à l'éducation, à la santé. Ce sont les besoins de base, en fait. Il faut bien commencer quelque part, si on peut le dire ainsi. Et avec mes responsabilités de ministre de la Santé en Suisse, j'étais tout à fait... peut-être logiquement prédestiné à ce qu'on ait la rencontre avec le ministre de la Santé de la République centrafricaine et qu'on se mette à travailler ensemble. Ça s'est passé comme ça. Ça s'est passé comme ça. C'est pas très spectaculaire, mais on l'espère suffisamment concret pour que, dans le fond, ce niveau politique ne plane pas loin des réalités et des besoins concrets des gens.
Je dois ajouter que la Suisse contribue déjà à la résolution de la crise et au soulagement des souffrances et au niveau du pays à travers des interventions multilatérales. Mm-hmm. On a cité le CICR qui a fait un travail excellent ici. Et on a cité, il y a le financement humanitaire. Il y a deux jours, on a participé avec un collègue de la Suisse au fonds Bécou. La Suisse va renforcer sa contribution.
Oui. Donc oui, mais en termes de chiffres, comment peut-on quantifier cet appui?
On peut le quantifier assez simplement. Avec l'augmentation donc on a une augmentation des moyens de la Suisse, donc versés directement pour pouvoir développer des projets ici en Centrafrique. Il y a la participation au fonds Bécou maintenant, et on va augmenter la participation globale de la Suisse en 2019 pour la porter à 11,7 millions de dollars. Voilà, donc c'est une augmentation quand même assez, assez conséquente par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, avec la participation à ce fonds. Et on est donc depuis quelques années maintenant engagé de plus en plus fortement, bilatéralement, avec nos propres projets, comme vous l'avez mentionné, ouais. Monsieur le ministre, mais également par le soutien qu'on apporte à toutes les organisations qui sont présentes sur le terrain, parmi lesquelles évidemment le CICR.
Monsieur le ministre, la majorité des structures de santé, notamment en province, ont été détruites pendant la crise. Comment rendre aujourd'hui les services de santé accessibles à la population?
Mais les services de santé, là où l'accès est resté possible, les services de, les populations accèdent aux services de santé grâce aux humanitaires un peu partout, à l'exception de quelques endroits où l'emprise des groupes armés a été plus sévère, notamment à Mingala, où, qui était presque un trou, on n'y arrivait pas. Mais il y a quelques jours, suite à l'accord de paix, grâce à MSF, Mingala a été ouvert. Ils ont fourni des soins, vacciné des enfants. Kembe, qui était fermé, aujourd'hui le sous-préfet a pris le service. Et donc le chef de district de santé aussi a pris service. Donc il y a une ouverture, il y a une ouverture qui se crée. Et je dois vous dire que le cas centrafricain est assez exceptionnel, puisque grâce au travail fait par CICR de formation, de sensibilisation auprès de groupes armés, les groupes armés ont coopéré à la santé. Et aujourd'hui, on est cité parmi le meilleur exemple de, couverture vaccinale en période de conflit et post-conflit. On est passé de moins de 50% de couverture vaccinale à près de 75% de couverture vaccinale en une année. Et nous espérons pouvoir, d'ici la fin de l'année et bien avant, atteindre le seuil minimal optimal acceptable de 80%. Vous voyez ça? Et on voit aussi une augmentation depuis une année de la couverture en antirétrovirale dans le cadre du Fonds mondial, ce qui a valu à notre président de la République d'être nommé champion pour accompagner la campagne de mobilisation de ressources pour le renflouement du Fonds mondial aux côtés du président Macron. Donc, avec l'appui de tous les humanitaires, quelque chose s'est passé et crée aujourd'hui les fondations d'un progrès réel pour l'amélioration de la santé de la population.
Valérie, aujourd'hui, quels sont les domaines visés par vos activités d'appui au secteur de la santé en République centrafricaine, en dehors de Kagabandoro?
En dehors de Kagabandoro, on a aussi des activités dans la Waka et dans la Nanamambéré. On s'occupe de prise en charge de soins de santé primaire, mais aussi, mais c'est vrai que ça c'est plutôt Kagabandoro, les soins de santé hospitaliers. On vise, et ça a été déjà mentionné, que les personnes les plus vulnérables dans le pays sont les femmes, les enfants et les blessés. Et on a des activités en faveur de ces catégories les plus vulnérables de la population. On organise, en exemple, des évacuations médicales, toujours pour des blessés, des malades. Environ deux fois par semaine, depuis le début de l'année, on a évacué des malades et des blessés. On a des formations en gestes qui sauvent aussi, qu'on offre, parce qu'on s'occupe de toute la chaîne des soins de santé. Donc depuis les gestes qui sauvent, jusqu'à la réhabilitation physique. Et ici, à Bangui, on soutient ANRAC, le centre de réadaptation, réhabilitation physique et d'appareillage. Et ça, c'est une activité qu'on va renforcer ces prochaines années. On vient de signer un accord avec le ministère de la Promotion de la Femme et de l'Enfant pour construire un nouveau centre de réadaptation physique qui pourra avoir une capacité de 1500 patients par an. Et c'est aussi une activité que le CICR veut soutenir dans ce pays parce que les besoins sont énormes et la réponse reste insatisfaisante.
Nous restons toujours dans le domaine de la santé. Comment la collaboration est-elle développée dans ce secteur avec le gouvernement et les autres partenaires?
Alors on a un dialogue très, très régulier, très constructif avec le ministère de la Santé, en particulier avec Monsieur le ministre et aussi des responsables des services du ministère de la Santé pour discuter des différents défis dans le pays, des stratégies, des priorités à définir. Et on a aussi une coopération sur un dossier important, et je tiens à le signaler ici, c'est celui du respect de la mission médicale. On en a peu parlé, mais l'accès aux soins est aussi empêché par des incidents de violence, des intrusions d'hommes armés parfois dans les structures médicales, des barrages, des personnes, le personnel médical qui est menacé, des patients parfois qui sont menacés, voire pire. Et tout ça fait que la mission médicale reste très difficile dans ce pays. Et on a un dialogue proche avec le ministère de la Santé aussi pour sensibiliser les populations, les porteurs d'âme à ce sujet, et essayer de trouver des solutions pour qu'au moins tout le monde se comporte de la bonne meilleure des façons pour permettre aux populations d'avoir accès aux soins de santé.
De Vondia, vous avez mis beaucoup l'accent sur les femmes et les enfants, mais les autres, les hommes? Vous prenez en charge toutes les...
Pour les hommes, 25% des hommes qui sont traumatisés dans ce pays, dont Sur notre statistique, il y a 60% des femmes qui sont consultées et 25% des hommes consultés et 15% des enfants qui sont en détresse consultés par l'ONG Ubuntu.
Rien qu'à Bangui.
Rien qu'à Bangui.
Alain, la Suisse et la République centrafricaine ont collaboré à la mise en œuvre de l'initiative Appel à l'action, comme je l'ai demandé tout à l'heure au ministre. Comment promouvoir l'accès aux soins dans un contexte complexe comme celui de la RCA?
Moi, je crois que la première chose, c'est de garantir la présence de l'État. Et dans ce sens, le redéploiement des structures étatiques, la présence, j'ai rencontré le préfet, comme je le disais ce matin, à Kaga-Bandoro, la présence de ces structures doit permettre de rappeler que l'accès à la santé, quand on parle d'accès universel, eh bien, c'est un accès qui doit être pour tous, dans de bonnes conditions. Il faut pour ça que le personnel de santé puisse travailler dans des conditions aussi qui soient aussi sereines que possible. Et pour ça, je crois que le redéploiement de l'État et des structures est un élément extrêmement important. Puis après, je profiterai de l'occasion pour parler d'un autre élément qu'on n'a pas mentionné, mais qui m'a beaucoup impressionné aujourd'hui. Vous savez, quand on parle de santé, on parle naturellement d'accès à l'eau, on parle d'accès aux médicaments, on parle de vaccination, on parle d'accès, quand c'est nécessaire, à la chirurgie. Mais quelque chose qui m'a beaucoup impressionné ce matin, c'était la rencontre avec les enfants. Des jeunes enfants qui ont vécu ou vu dans les périodes les plus difficiles des situations, ou vécu des situations très difficiles, qui sont aujourd'hui profondément marquées. J'ai pu les rencontrer, ils font des dessins, on voit comment ils s'expriment. Et il ne faut pas oublier dans ce cadre-là tout le volet santé mentale, accompagnement psychologique pour les victimes de violences. C'est extrêmement important si on souhaite garantir une situation à l'avenir qui soit aussi bonne que possible. Il faut aussi traiter cela. Et je pense que c'est aussi une grande priorité en matière de santé en général dans un tel contexte.
Monsieur le ministre, dernière question pour mettre fin à notre émission. Les acteurs humanitaires semblent se succéder aux services de santé de l'État dans les villes touchées par la crise. Aujourd'hui, quelle est la situation? Doit-on toujours attendre l'appui des partenaires?
D'abord, il faut leur rendre hommage, les acteurs humanitaires. C'est grâce à eux que, un certain degré d'accès a été rendu possible au service de santé, aux populations, malgré les crises. Je le dis, et ceci à leur risque et péril, certains y ont perdu leur vie. Je crois qu'il faut leur rendre hommage, rendre aussi hommage à nos personnels de santé. Et je dois dire ici que quelque chose dont on ne parle pas assez, c'est le rôle que le secteur de la santé joue justement comme fondation, comme creuset de la paix et de la cohésion sociale. Pendant que donc il y avait tous ces problèmes, toutes les communautés pouvaient fréquenter les formations sanitaires, musulmans et chrétiens pouvaient partager la même chambre. On l'a vécu. Bon, il y a eu des moments de crise, mais ça n'a jamais abouti à ce que l'espace médical soit divisé. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on ne note pas assez. Et cette contribution à l'action sanitaire, ce maintien des activités sanitaires était une contribution fondamentale à la paix, à la cohésion sociale. C'est le creuset à partir duquel aujourd'hui la paix est possible, parce que les populations sont restées connectées à travers le secteur de la santé. Et ça, c'est très important. Maintenant, bien entendu, comme l'a mentionné mon collègue, son Excellence Alain, l'action humanitaire n'est pas une action figée, elle évolue tout le long, évolue avec l'évolution de la situation dans un pays. Il y a différentes phases, il y a le relèvement, il y a aussi le développement. Et aujourd'hui, tous ces acteurs humanitaires sont en train d'évoluer avec nous, à la faveur de l'accord sur un mode de renforcement des acquis donc de l'humanitaire et de l'évolution du développement du secteur de la santé. Et donc voilà, le Fonds Bécou, la Banque mondiale, le KfW, l'Allemagne, l'Alliance Gavi, les systèmes des Nations Unies aujourd'hui travaillent ensemble, et je peux dire qu'on a une très bonne coordination du secteur santé, des partenaires au niveau du secteur santé. C'est pas encore parfait, mais il y a une très grande volonté de travailler ensemble et d'avoir un impact plus rapide. Vous l'avez observé certainement à Pisa, là où on a eu un événement spectaculaire grâce justement à cette conjonction, à ce partenariat qui est agissant et qui monte en puissance.
Voilà, ainsi s'achève cette émission d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que nous avons reçu Alain Berset, conseiller fédéral de la Suisse en mission en République centrafricaine, Dr Pierre Somsé, ministre centrafricain de la Santé publique et de la Population, Valérie Petitpierre, chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge en Centrafrique, Eudo Vondia, clinicien, responsable civil à l'ONG Oboni. Avec eux, nous avons parlé de l'accès à la santé dans un contexte humanitaire difficile. Fanny Christelle Balikoussi à la réalisation, assistée de Reine Fabienne Dotiga. Herman Amouna était à la technique. Je vous donne rendez-vous le mardi prochain. Au revoir.